Alors, j'ai le plaisir de vous transmettre les salutations aussi de José et de tout le comité Pulse qui était au château hier soir pour enregistrer de la musique pour une vidéo. Et pourquoi je commence là? C'est parce qu'aujourd'hui, on parle de l'église persécutée. Et Pulse, c'est quoi? C'est des jeunes de plein d'églises locales. Qui a le U de Pulse, c'est unité, qui viennent ensemble et qui font parfois des soirées ensemble. Et hier, on était avec Mathieu et il y avait des jeunes de plusieurs églises qui ont fait ce moment de louange. Et je pense aussi que nous sommes unis avec l'église persécutée. Et ce sont nos frères et sœurs. Et je suis reconnaissant à Pascal. Et à Sylvette de porter vraiment ce ministère dans notre église parce qu'elle est si importante. Et église persécutée, l'église c'est un corps, mais c'est aussi chacun de nous on fait partie de ce corps. Et quand on entend persécuter, on peut imaginer quelque chose au niveau, on va dire, global. Et on le voit à travers l'histoire. Cette église qui a toujours, dès le départ, dès Jésus-Christ, a été mise à mort, a été insultée, a été torturée. Et à travers l'histoire, on a vu que cette église, à chaque fois mise à mal, mais jamais détruit. Mais aussi, on peut regarder d'un point de vue très individuel, peut-être à chacun de nos vies, en tout cas dans les vies des personnes dont on a entendu les témoignages ce matin, mais aussi parfois dans nos vies, on est à bout, on est mal physiquement, on est mal émotionnellement, mentalement. Souvent aussi parce qu'on essaye de suivre et de servir le Christ. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Et cette réalité, elle peut être à la fois vue d'un l'Église comme une entité, mais aussi nous comme élément de l'Église. Alors, je vais allumer ça. Portes ouvertes, avec qui nous bénéficions de leur travail, distinguent deux types de persécutions qui peuvent avoir lieu. Ce qu'ils appellent la persécution marteau, donc l'oppression violente, c'est des assassinats, des kidnappings, ce qui est arrivé à Jésus en quelque sorte, quand il était sur la croix, quand on l'a cloué, quand on le Mais aussi la pression par discrimination, la persécution étau. C'est l'oppression, le rejet, le déni de droit, l'exclusion, le procès injuste. De nouveau, on voit Jésus injustement condamné, rejeté. Mais encore aujourd'hui, les chrétiens, on est les disciples de Christ, on marche derrière lui, on le suit. Et parfois, il nous arrive ces choses-là. Dans notre contexte actuel, on le vit peut-être de manière moins violente. Mais je sais que dans ma propre vie, je ne sais pas si j'ai été réellement persécuté, mais en tout cas le fait de discuter avec des amis qui rejettent la foi, d'être confronté à eux, même si ça m'a vraiment fait grandir dans ma foi, dans ce que je croyais et dans ce que je crois. Et on l'a vu dans les témoignages. Quand on est confronté à cette résistance, à ces épreuves, Dieu y fait grandir. Alors on va lire ce matin, Jorgan l'a déjà lu, mais on va lire ce matin dans 2 Corinthiens 4, et on va lire du verset 5 au 15. Donc, je vous invite à vous lever pour voilà la lecture de la parole de Dieu. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 5 à 15. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Christ, le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ça c'est une citation de Jean Chrysostome. Donc, c'est un des pères fondateurs de l'Église, très reconnu notamment par les orthodoxes. Mais cette citation que j'ai trouvée dans un commentaire du texte, je trouve hyper intéressant. Au cas où quelqu'un dirait, comment se fait-il donc que nous continuons à jouir d'une gloire aussi incommensurable dans un corps mortel ? Paul répond que ce fait même est l'une des preuves les plus merveilleuses de la puissance de Dieu. Qu'un vase de terre puisse porter une telle splendeur et conserver un tel trésor. Ce paradoxe, ou que moi je vis honnêtement souvent comme une souffrance, personnellement. Comment c'est possible que malgré une si bonne nouvelle, malgré une victoire qui est déjà atteinte, sans demi-mesure, nous vivons et nous souffrons et nous passons notre vie loin de cette perfection, mais à la fois si proche d'elle. Et Paul répond que ce fait même, le fait que ce message incroyable, la gloire de Dieu, la révélation de la gloire de Dieu puisse être en nous, être si imparfait. Ça même, c'est un des plus grands miracles et c'est magnifique. Et c'est ce qu'on voit dans le texte aujourd'hui. On voit qu'on a ce message. Je reviens en arrière. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. On n'est pas en train de se vanter nous-mêmes. On n'est pas en train de se mettre nous-mêmes en avant. Paul, dans ce cas, il fait face à de fortes résistances dans l'église de Corinthe. Des personnes qui il est et qui disent qu'il raconte n'importe quoi et qu'il est pas digne de, qu'il est pauvre, qu'il a rien. Qu'il s'exprime mal, il y a des gens qui viennent dans l'église des faux docteurs et qui le qui le prêche, il dit, moi je suis pas là pour me prêcher moi-même, je prêche Jésus-Christ. Et il fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça ce qui est beau en nous, ce qu'on porte de beau. On va continuer. Donc aujourd'hui, le plan de la prédication qui est proposé. Donc pourquoi nous sommes pressés de toutes parts, et ensuite pourquoi nous ne sommes pas écrasés. Alors pourquoi nous sommes pressés de toutes parts. C'est parce que nous détenons ce trésor dont on vient de parler. Depuis le début de l'Église, mais même depuis le début des temps, il y a un grand affrontement. Et ce message de paix, de réconciliation, est détesté par l'ennemi. Mais nous, on détient ce trésor que Dieu a envoyé en son Fils. Et c'est si important. Paul il dit, je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Dans Philippiens 3, verset 8. Ça veut dire tout ce qui est cher dans nos vies, tout ce qui est important, c'est rien comparé à ce trésor qui est contenu en nous. C'est fort. Quand ce monsieur demande, en voyant le témoignage de la dame qui a perdu sa famille, dont sa fille s'est fait violer ou je ne sais quoi. Tout peut m'arriver à moi, mais qu'est-ce que je pourrais supporter qu'arrive à mes enfants? Mon trésor. Où est notre trésor? Selon le dictionnaire, un trésor, c'est un ensemble de choses de valeur, accumulées et souvent cachées. Pourquoi cachées? Parce que les gens veulent venir le voler. Mais là, c'est tout l'inverse. Qu'est-ce que Dieu il veut que nous fassions de ce trésor qu'il a déposé dans nos vies? Ce trésor-là n'attire pas forcément les foules. Et la plupart du temps, ça, c'est même l'inverse. Il attire le rejet. Comme on a vu dans le témoignage de Kirti, donc c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc de cette dame, elle a tout perdu à cause de sa foi en Christ. Et pourtant, ces mots à la fin du vidéo résonnent encore. J'ai plus peur. Parce qu'elle, elle sait où est son trésor. Alors, est-ce qu'on doit taire ou cacher notre trésor? S'il y a de la lumière dans nos cœurs, il y en aura sûrement autour de nous. Le passage tout à l'heure, ça reprend le psaume « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », le psaume 116. De l'abondance de son cœur, son bouche parlait. Et c'est aussi ce à quoi on est appelé à vivre. Nous ne sommes que le vase. C'est pas nous le centre de l'histoire. Parfois, on peut avoir peur et même être tenté d'enterrer ce trésor. On voit, même dans la vie de Kirti, au début, elle a renié sa foi, elle le dit, et ses amis se sont dispersés. On peut comprendre face à ce qu'ils étaient. Mais il faut toujours se rappeler que notre mission, c'est de faire briller l'évangile, de faire briller le message du Christ. Dans Matthieu 5, on lit, Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour le mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » C'est quoi le message? C'est que même quand c'est dur, même quand on n'a pas envie, même quand ça nous coûte, même quand ça, peut-être même ça peut nous faire du tort. Kirti, ça lui a fait du tort. Elle a perdu son mari, elle a perdu, elle mangeait pas, elle pouvait pas travailler. Même quand ça nous fait du tort, on avance avec Christ et on le suit. Et on fait briller son message. Ensuite, le prochain, c'est donc la question pourquoi nous sommes pressés de toutes parts. Parce que on est fragile. Et c'est une réalité que on déteste. On déteste nos limites. On déteste le fait qu'on n'y arrive pas. On est dans un monde où c'est Superman qui est mis en avant, c'est des personnes sont glorifiées par leur capacité de travail, leur capacité d'inventivité, de toutes ces choses, les gens qui réussir. On est dans un monde où il faut réussir. Et nous aussi on aimerait réussir. Mais c'est pas le promesse de l'évangile. Bah le promesse, la victoire est acquise. Mais il dit pas qu'on va tout réussir facilement, qu'on sera plus malade, qu'on aura plus de problèmes. Au contraire, on l'a vu. Nous portons, verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Le fait qu'on soit si fragile, ça met en exergue, ça montre d'autant plus à quel point Dieu est glorieux, à quel point il est fort et c'est lui à qui on doit rendre gloire. Parce que nous, intérieurement et extérieurement, on dépérit sans lui. Donc il y a un contraste. Et ça revient à cette citation de départ. C'est incroyable que c'est un miracle, que cette gloire, c'est quelque chose de si parfait, peut être porté, le message est porté par des êtres imparfaits. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Dieu nous utilise, il nous donne l'honneur de participer à son plan, et il prend nous des hommes et des femmes imparfaits, et il nous donne l'opportunité de témoigner de la grâce que Dieu il a dans nos vies, dans nos faiblesses. On peut dire, voilà, Dieu a fait ça, Dieu a fait ci. Voici un autre témoignage d'un pasteur, Madira Kotireddy. C'est un homme qui était gravement malade, un peu comme Kirti au début. Et c'est Dieu qui l'a guéri miraculeusement. Il savait pas lire, il savait pas étudier la théologie. C'est vraiment un homme du point de vue de ce monde des plus fragiles. La santé, intellectuellement, mais il parcourait les villages avec un vélo, avec un magnétophone où on entendait la Bible, quelqu'un qui lisait la Bible. Cet homme ne n'arrivait même pas à lire, et pourtant il apportait la parole de Dieu autour de lui avec des haut-parleurs. Et ensuite il s'est fait tuer à coups de ou pas tuer justement il s'est fait hacher par des personnes dans un des villages. et il était encore plus faible qu'auparavant, donné pour mort. Et Dieu de nouveau l'a relevé. Et aujourd'hui, avec encore plus de persistance, il parcourt les villages avec son vélo. Plus d'une fois, il n'y avait aucune raison pour qu'il revienne. Plus d'une fois, il n'y avait aucune raison que... Et voici les mots de son épouse. Quand on lui demande « Est-ce que tu as peur de perdre ton mari ?» Elle répond « Pour moi, il devait être mort déjà depuis 7 ans. Celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. Aujourd'hui, Kotideri a repris son vélo et il parcourt les villes. » Et est-ce que nous, on peut en dire autant ? Est-ce que nous qui devions être morts à cause de notre péché, peut-être aussi physiquement à cause d'une maladie ou autre, est-ce que nous on peut en dire autant ? Celui qui nous a donné la vie, il peut continuer à prendre soin de nous. Plus le témoin est faible, plus le fait que la faiblesse est manifeste dans la vie de quelqu'un, plus on peut y voir la puissance de Dieu éclater. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et du coup, pourquoi nous ne sommes pas écrasés ? Comme on disait, Paul, c'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien les tribulations, les souffrances, même dans une église comme Corinthe, où c'est lui-même qui avait apporté la bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'Église ne connaîtrait pas la nouvelle de Jésus s'il n'était pas allé prêcher l'Évangile. Et pourtant, des gens disent, mais c'est un faux, c'est pas le vrai Évangile. Mais attendez les gars, c'est moi qui vous a emmené l'Évangile. Et il parle là, il témoigne dans cette lettre de certains de ses souffrances. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. On peut distinguer ici deux types de détresse, des détresses intérieures, inquiets, abattus, mais aussi des détresses extérieures, des choses qui peuvent venir de l'extérieur, persécutées. Et la liste, elle peut continuer. On voit des exemples il y a plein de choses, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est finalement l'espoir qui fait la différence, la promesse qui fait la différence, la foi qui fait la différence. C'est-à-dire qu'on peut être dans des situations, impossibles pour nous, de notre point de vue. Mais Dieu va agir. On est pressé de toutes parts, intérieurement, extérieurement, mais pas écrasé. On a chanté un chant hier à Pulse, c'est qui reprend le nom que Abraham a donné à Dieu quand il était sur le point de sacrifier son fils. C'est Jéhovah Jireh. C'est le Dieu qui pourvoit. Et au moment de mettre son fils sur l'offrande, que pour certains d'entre nous, on peut se dire, mais c'est une aberration. Abraham avait la foi, il avait la certitude qu'il allait revenir à la maison avec son fils. Comment ? C'était pas entre ses mains. Et Dieu a pourvu. Donc même quand on est inquiet intérieurement, on va mal. On n'a pas besoin d'être sans espoir, on n'a pas besoin d'être désespéré, parce qu'on peut toujours se raccrocher à l'espoir, aux promesses de Dieu. On peut toujours se raccrocher à ses promesses. Même quand on est dans une situation où tout le monde entier est contre nous, ou en tout cas toutes les personnes autour de nous, on se retrouve dans une solitude extrême, on est seul face à à des choses qui peuvent nous persécuter ou des personnes qui peuvent nous persécuter, on n'est pas abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas seul. On a cette promesse de Dieu qu'il est avec nous. Même quand on est abattu, un arbre abattu, ça veut dire que l'arbre est tombé, hein. Mais c'est pas anéanti, c'est pas fini. C'est Dieu qui a la victoire. Jésus-Christ a pris à la croix ce qui pouvait vraiment nous anéantir et nous écraser, le péché. Ésaïe 53, verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus a été anéanti, il a été abandonné, il a été désespéré à notre place, et il a gagné la bataille. Quelque chose qui revient souvent avec l'Église persécutée, et on a plusieurs témoignages, on va dire plutôt d'un niveau macro, parce que là on parlait du niveau personnel, mais c'est que le plus les autorités font pour persécuter une Église, le plus qu'il y a de problèmes pour les chrétiens, le plus que l'Église grandit. Il y a un livre qui s'appelle, je traduis le nom de l'anglais, mais en quelque sorte la folie de Dieu, d'un auteur qui s'appelle Nick Ripken. C'est un monsieur qui a fait le tour d'églises persécutées dans le monde, dans l'objectif de les soutenir, mais aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il a tellement de témoignages. Comme dans un pays de l'ex-Union soviétique qui était sous un dictateur, quand ils n'avaient pas le droit à une époque où ils n'avaient pas le droit d'être chrétiens, toutes les gens dans l'église, ils apprenaient par cœur la Bible. Ils apprenaient par cœur parce qu'ils savaient qu'ils allaient se retrouver en prison et qu'ils n'allaient pas avoir avec eux la parole de Dieu. Donc ils l'apprenaient par cœur. 10-15 ans après, la génération d'après, c'était un pays libre, un pays où il n'y avait pas besoin d'avoir peur de connaître Dieu. Personne ne connaissait sa parole, la parole de Dieu par cœur. Personne ne connaissait les jeunes, ils n'avaient pas ce besoin. Et c'est juste montrer un mécanisme. Il parlait de la Chine. L'église chinoise, nous, on va à la faculté de théologie pour devenir pasteur. En Chine, les pasteurs, c'est les personnes qui étaient en prison. Ils ont fait leur séminaire aux prisons. Parce que c'est les personnes qui ont survécu à ça. Ils ont grandi dans une foi tellement, ils ont appris à connaître, à aimer, à compter sur Dieu. À compter sur ce Dieu qui pourvoit. Là, on a le témoignage de Ava et Marduk, des Iraniens, qui ont beaucoup souffert à cause de leur foi. Donc, ils ont été, notamment Marduk a été emprisonné. Ils ont tout perdu, leur maison, leurs biens, leurs revenus. Et ils ont été en permanence sous surveillance. Mais malgré cette persécution, et malgré le fait que l'État essayait d'arrêter le fait qu'ils suivent et qu'ils grandissent en Christ, ils sont sortis grandis de cette situation. Et voilà, voici ce que raconte la femme de Marduk, Ava. Quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu, et j'en ai retenu de nombreuses leçons. J'ai appris que Dieu était là, avec moi, dans le feu. Elle a réalisé que pendant toute une époque, elle avait lu et relu la Bible, qu'elle avait même enseigné la parole de Dieu aux autres. mais que ça restait dans sa tête, dans sa vie, ça restait très théorique. Et c'est grâce à cette persécution qu'elle a subi, qu'elle a reconnu la réalité de Dieu et la réalité de ses promesses. Et qu'elle peut dire, je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher de lui. Depuis l'arrestation de son mari, Ava est devenue comme une enfant, sans défense. Elle n'a plus son mari dans la société iranienne, elle est plus personne. Mais dépendante de la puissance de l'amour de Dieu. Elle apprend de plus en plus à lui faire confiance et à lui obéir. Je peux dire, donc c'est encore Aklipa qui parle, que je suis plus prête et disposée à faire la volonté de Dieu. Donc vous imaginez une situation où l'Église, tellement de fois, est écrasée, mais par ses mécanismes, Dieu utilise ça pour faire grandir ces personnes, pour faire grandir leur foi, pour faire grandir leur témoignage, leur confiance. Et enfin, on n'est pas écrasé parce qu'on porte notre attention sur des réalités éternelles. Donc verset 14, « Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. » Donc il y a plusieurs notions qui se retrouvent dans cette phrase. Donc il y a le fait, la foi, le fait de croire. Ouais. Il y a aussi le fait de parler, de partager. Et d'où le fait que des personnes sont persécutées à cause de leur témoignage. Ça veut dire qu'ils ont pris une position pour Christ. Mais notre résurrection est aussi certaine que celle du Christ. Ça veut dire que c'est une promesse qui est certaine. On sait que même la mort ne va pas nous séparer de Christ. Peut-être que Paul essaye de dire « J'ai cru aux ressources divines, c'est pourquoi j'ai délivré ce message sans réserve, quoi qu'il pût m'en coûter. » C'est ce que beaucoup de chrétiens persécutés expriment aujourd'hui lorsqu'ils témoignent courageusement de leur foi, quoi que ça leur coûte. Et on peut penser au verset de Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Et c'est encore quelque chose avec lequel je bataille personnellement. Dans un moment présent qui ne dure pas, on peut vivre des souffrances, on peut vivre des choses insoutenables ou qu'on n'arrive pas. Et pourtant, c'est rien comparé aux promesses éternelles. Mais nous, on aime bien rester dans ce moment, ou en tout cas, c'est là où on est. Mais la gloire de Dieu est infinie en quantité, elle est surabondante, elle est infinie en qualité. Un poids insurpassable, elle est infinie en durée, c'est éternel. Quel cœur que celui de Paul, un cœur brisé, mais un cœur encouragé, dynamisé, comblé par sa vision de la gloire future. Donc gardons cette gloire future devant nous, c'est là où nos yeux doivent regarder. Donc pour conclure, donc ne perdons pas courage, verset 16. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Il est contenu dans nos vies fragiles. Et parfois, les épreuves, elles fissurent nos vases. Toutes ces personnes qui ont témoigné ont réellement souffert, ont réellement perdu des êtres chers, des ressources, un confort, Ils ont payé un prix. Et pourquoi? C'est pour que la gloire de Christ pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. C'était tellement beau quand cette dame qui avait perdu son mari a dit « Je prie et j'ai foi pour les personnes qui ont tué mon mari. » Moi, personnellement, je sais ce que c'est d'avoir foi pour quelqu'un. J'ai foi que mon frère va un jour connaître le Christ. J'ai foi que un de mes meilleurs amis va un jour connaître le Christ. Mais c'est des personnes que j'aime facilement. Mais cette dame, les mêmes personnes qui ont tué son frère, son mari, excusez-moi, ces mêmes personnes que on dirait elle a le droit, peut-être de notre point de vue humain, elle a le droit d'être un peu de les en vouloir, de pas pardonner, ce serait naturel. Mais Dieu a tellement changé son cœur, tellement changé sa vie, que ces personnes qui lui ont fait peut-être le plus de mal qu'elle a vécu sur cette terre, elle a foi pour eux, c'est-à-dire qu'elle croit le mieux pour eux. Elle croit qu'ils vont connaître le Christ. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Donc c'est pas nous qui recevons c'est pas par notre force, c'est pas nous qui sommes le message. Acte 20 verset 24, je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Où sont nos priorités? C'est quoi une vie réussie? Il avait une vision très simple et claire de ce pourquoi il était là, Paul. Donc, le dernier encouragement, c'est que son exemple, donc de Paul, mais aussi de nos frères et sœurs persécutés, nous incite à plus de disponibilité et plus de consécration pour le service que le Seigneur veut nous confier. Parce que je pense que ce qu'on peut aussi retenir de tout ça, c'est que dans notre quotidien, avec tellement de distractions, avec tellement de confort, de choses faciles, des sirènes qui nous appellent à droite, à gauche, c'est génial. Mais en même temps, c'est très facile que notre direction se détourne de ce à quoi il devrait être.